Bon réveil à tous, il est 6h.
Je ne vais pas vous dire que c'est un succès pour la défense, mais le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès sortent d'ici en se disant « justice a été rendue ».
La réaction de l'avocat de Nordal Lelandais, condamné hier soir à 20 ans pour le meurtre d'Arthur Noyer, il ne fera pas appel. La vaccination s'ouvre à tous les majeurs à partir de ce matin. Reportage à Douai, où les jeunes se bousculent. Situation de plus en plus tendue entre Israéliens et Palestiniens. Nouveaux échanges de tirs au cours de la nuit, on vous racontera. Et puis le château du gang des Lyonnais est à vendre. On s'y rendra à la fin de ce journal.
À suivre la page des sports. Et puis mon invité inattendu sera un marin inattendu qui se lance dans un défi un peu fou, traverser l'Atlantique. Mais alors vous verrez sur une embarcation étonnante, digne d'une bande dessinée d'Astérix. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. C'est dans un quart d'heure, à 6h15. Bienvenue à vous tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La cour d'assises de Savoie a donc reconnu Nordal Lelandais coupable du meurtre d'Arthur Noyer et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3, bien en deçà finalement des réquisitions de l'avocate générale qui avait requis 30 ans de prison. Les délibérations ont duré 7 heures et voici la réaction de l'avocat de Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz.
Je ne vais pas vous dire que c'est un succès pour la défense, mais le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès, aussi bien la famille de Nordal Lelandais que Nordal Lelandais, que la famille Noyer, sortent d'ici en se disant « justice a été rendue ». On a jugé un homme, et il a été jugé comme un homme. Dans un procès normal, et le vœu pieux du président, ce vœu pieux, vous devez juger cet homme comme un homme à raison de ce pourquoi il est jugé, et pas autre chose. Bien voilà, c'est ce qui a été prononcé. On sait qui on a défendu. Bien sûr, on sait qu'il y a un nouveau procès qui nous attend. Enfin, on n'est pas imbécile, on n'est pas des candides. Alors, voilà, on voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, et uniquement ce qu'il a fait. Refermons ce dossier, ayons une pensée pour Arthur Noyer, ce jeune homme qui n'aurait pas dû mourir et qui malheureusement est mort.
Maître Alain Jakubowicz, avocat de Nordal Lelandais, qui donc ne fera pas appel.
Une première nuit à la prison des Baumettes de Marseille pour le jeune homme de 19 ans, soupçonné d'avoir tué le brigadier Éric Masson.
À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour homicide involontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le suspect continue de nier les faits, bien qu'il ait été formellement identifié par un collègue du policier tué.
On en vient à l'actualité sanitaire et le temps est venu de la vaccination pour tous ceux qui le souhaitent.
Oui, dès ce matin, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner en fonction des rendez-vous. Restez libres du jour pour le lendemain. À Douai, au vaccinodrome de Gaillan Expo, des créneaux sont ouverts depuis le début de la semaine à tous les majeurs et il y a un certain engouement chez les jeunes. Reportage de Maximilien Carlier.
Voilà, c'est fait, première dose.
Quentin, 20 ans, vient tout juste de se faire piquer. Ce qu'il veut surtout, c'est retrouver une vie comme avant.
Ouais, je vais me faire vacciner pour mes grands-parents. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Et juste sortir aussi, faire un peu ce qu'on veut, dessiner, des foot, sortir entre potes.
Assister à des concerts, voyager cet été, c'est pour ces raisons d'ailleurs que Théophile, 26 ans, a décidé de venir. Il a même changé d'opinion sur le vaccin.
Il y a encore quelques mois, vous m'auriez posé la question, je pense que ça aurait été plus négatif. Mais là, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes vont notamment se bouger.
Et c'est clairement visible ici. Ils arrivent par vagues, ils ont 20, 30 ans maximum. Il était temps pour Salia Grévin, chef du vaccinodrome de Douai.
Moi, ça fait depuis janvier que je dis non aux jeunes de mon territoire qui viennent tous les jours, depuis janvier, s'asseoir à 18h pour voir s'il reste des doses. C'est fini.
C'est fini, vaccination ouverte à tous ici. Et s'il y a un fort engouement chez les jeunes, selon plusieurs médecins, c'est parce qu'ils ont été trop longtemps frustrés de n'avoir pas pu être vaccinés. Douai, Maximilien Carlier, Europe 1.
Les jeunes qui reçoivent donc en ce moment leur première dose, reste à savoir comment ça va se passer cet été quand tout le monde aura quitté sa résidence principale pour se rendre sur son lieu de vacances. Anne Le Gall, le gouvernement travaille justement là-dessus en ce moment.
Exactement, car plusieurs questions se posent. D'abord, les Français pourront-ils réaliser leur deuxième dose sur leur lieu de vacances? Eh bien, non, ou alors de façon exceptionnelle, a indiqué hier le ministère de la Santé, qui demande aux Français d'adapter leurs vacances à leur rendez-vous de vaccination et non l'inverse, car il y a un risque de désorganisation du système. En clair, pendant l'été, la règle sera toujours de recevoir sa deuxième injection au même endroit que la première. Donc, si vous devez partir en vacances le 15 juillet en ayant reçu vos deux injections injection de Pfizer ou Moderna. Il faudra prendre rendez-vous pour la première le 3 juin au plus tard pour respecter le délai de 42 jours entre les deux doses. Avec AstraZeneca, c'est un peu plus souple car le délai entre les deux doses est de 12 semaines.
Mais Anne, le gouvernement parle quand même d'allouer davantage de doses aux régions touristiques, non ?
Oui, c'est exact, notamment pour les vaccinations avec le vaccin Janssen qui a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose. Une expérimentation va d'ailleurs être menée dès ce week-end de l'Ascension en région Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 50 000 rendez-vous supplémentaires seront disponibles dans ces zones touristiques pour injecter ce vaccin unidose destiné aux plus de 55 ans. Et cela pourrait préfigurer ce qui se passera cet été, dit-on au ministère de la Santé. Enfin, pour fluidifier la vaccination chez les plus jeunes, y compris en amont des vacances, le vaccin à ARN messager Moderna sera disponible chez les pharmaciens et les médecins dès la semaine du 24 mai.
Merci Anne Le Gall pour ces précisions pour Europe 1 ce matin.
Et après un gros couac hier, le pass sanitaire, lui, est bien sur les rails.
Oui, il y a eu la fronde du Modem hein, et l'Assemblée nationale finalement a adopté le texte sur la sortie de l'état d'urgence et sur l'instauration de ce fameux pass sanitaire. L'exécutif néanmoins a dû demander une deuxième délibération cette nuit après le rejet du texte par ses alliés du centre pour obtenir le vote des députés. Député du Modem, le gouvernement a accepté d'écourter la période de transition pendant laquelle des restrictions des libertés seront encore à sa main du 2 juin à fin septembre plutôt que fin octobre.
La traque continue dans les Cévennes. 200 gendarmes tentent depuis hier soir de localiser l'homme qui a abattu son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait.
Le tueur présumé a pris la fuite en forêt. Il pourrait donc être lourdement armé. Il est licencié dans un club de tir, d'où la présence sur place du GIGN. Et il a des tendances paranoïaques, dixit le procureur d'Alès, François Schneider, qu'on écoute.
La personne soupçonnée est un tireur sportif, donc il y avait une détention d'armes pour l'arme qui a été a priori utilisée pour la commission des faits. Il n'est pas connu pour des violences, il n'est pas connu pour des faits particuliers. Il était également en conflit avec son employeur dans la société pour des problèmes d'horaire de travail. C'est une personnalité très particulière, très procédurière et qui visiblement avait beaucoup de mal à admettre certains faits qu'il avait dénoncés. Il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Le procureur d'Alès, François Schneider, au micro Europe 1 de Roman Hockey.
Venons-en à l'actualité à l'étranger et à cette nouvelle nuit de violence entre Israéliens et Palestiniens.
L'armée israélienne qui a mené une nouvelle série de frappes cette nuit sur la bande de Gaza, frappant les maisons de responsables du Hamas. Un Palestinien par ailleurs a été tué en Cisjordanie. Le djihad islamique qui, de son côté, a annoncé avoir tiré cette nuit 100 roquettes en direction d'Israël. Écoutez la réaction de Benjamin Netanyahou.
Le Hamas et le djihad islamique paieront pour cela. Ils paieront un prix très lourd. Voilà ce que dit le Premier ministre israélien.
Et une escalade dénoncée par Ned Price, conseiller politique américain et ancien officier du renseignement.
Nous ne voulons pas voir de provocations. Les provocations que nous avons vues ont amené au décès regrettable, très regrettable, d'Israéliens comme de Palestiniens. Israël a le droit de se défendre, mais en même temps, nous regrettons les informations sur des décès de civils et nous voulons que ça cesse.
Et sachez que l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Retour en France à présent avec cette question. Va-t-on manquer de riz ?
Oui, alors c'est un cri d'alarme imposé ce matin sur Europe 1 par des producteurs de Camargue. La production française cette année sera à son plus beau niveau depuis 30 ans. En cause, les normes sanitaires de plus en plus contraignantes qui découragent les producteurs. Explication signée Maud Descamps.
Des 30 000 hectares de rizières camarguaises d'après-guerre, il n'en reste qu'un tiers, cultivé par 170 riziculteurs. Cédric Santucci est l'un d'entre eux. Cette année, il cultive à regret du blé dur.
Depuis plusieurs années, on fait face à un retrait de produits phytosanitaires en France. Aujourd'hui, c'est très compliqué de désherber correctement nos rizières. Le fait est que si les parcelles sont envahies de mauvaises herbes, les rendements chutent de l'ordre de 3-4 tonnes. La culture du riz n'est plus rentable.
L'an dernier, 80 000 tonnes de riz camarguais ont été produites. Cette année, ce sera 30% de moins. Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs français, s'inquiète aussi de l'impact sur le paysage.
On était habitué à avoir un paysage où il y avait bien sûr de l'eau en permanence avec toute la faune et la flore qui s'y attachent. Aujourd'hui, malheureusement, on voit plutôt des champs qui sont plastifiés aussi parce qu'on est obligé d'utiliser ces méthodes-là pour avoir des melons de plus en plus tôt.
Contacté par Europe 1, le ministère de l'Agriculture assure qu'il ne laissera pas la filière du riz français disparaître. 3 dérogations de produits phytosanitaires sont actuellement à l'étude.
Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1.
Et nous partons maintenant pour Fléchère. Le château du Gang des Lyonnais est à vendre. La petite annonce est parue récemment.
Oui, le Gang des Lyonnais, c'est ce fameux gang des années 70. Et le château, c'est celui d'un chef-d'œuvre de la Renaissance, situé à 50 km de Lyon. C'est un château de plus de 400 ans où les gangsters faisaient des fêtes mémorables, que nous raconte Jean-Luc Boujon.
Le château de Fléchère est un superbe édifice construit en 1605 sous Henri IV. C'est un joyau de la Renaissance composé d'une trentaine de pièces ornées de peintures d'époque, explique son propriétaire Marc Simonet Langlard.
Alors ici, nous sommes dans la salle représentant la figure de la fortune avec sa corne d'abondance, d'où sortent des pièces d'or. Et c'est un décor tout à fait étonnant qui n'a pas d'équivalent.
Plus récemment, dans les années 70, le château a été la propriété d'un des chefs du gang des Lyonnais, la célèbre bande de braqueurs qui sévissait à l'époque.
Il y a organisé quelques fêtes très sulfureuses avec des prostituées.
Donc des orgies qui ont été organisées là au moment du gang des Lyonnais.
Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que ces associés se sont dit qu'il était en train de risquer de les compromettre eux-mêmes.
Aujourd'hui, le château complètement restauré est à vendre, prix 12 millions d'euros. Mais l'argent n'est pas le seul critère.
On pense trouver un acquéreur qui ait le goût de ce genre de lieu et qui ait envie de le faire vivre en respectant le bâtiment.
D'ailleurs, plusieurs offres de promoteurs ainsi qu'une autre émanant d'un investisseur saoudien ont déjà été refusées. Farins, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà pour ce récit qui conclut le journal de Lénaïque Monnier sur Europe 1. Il est 6h12.